Bien, bonjour à tous. Pour la suite de ces utopiales et pour la suite de cette matinée qui a très très bien commencé tout à l'heure grâce à Estelle Blanquet, que je remercie, et à tous ses intervenants. Alors, on continue avec une table ronde centrée véritablement sur le thème de ces utopiales, puisque en fait, le titre de cette table ronde aurait pu, à un moment donné, dans certaines versions préparatoires, ça je le dis en tant que délégué artistique, aurait pu être le titre du festival. Véritablement, ça a été envisagé. On aurait pu l'appeler, ce festival, Utopie verte pour cette année. Donc on est vraiment sur une table ronde qui, en plus, joue à fond la carte de la parité. Deux Français, deux Belges, deux architectes, deux universitaires. Et donc on va essayer, à la fois du côté de la recherche et du côté de la construction, de la vision, à la fois du côté de l'imaginaire et puis du côté de la réflexion, de vous proposer une analyse complète et enlevée, dynamique, de ces utopies vertes. Est-ce que véritablement la revanche de l'utopie est devant nous ? Est-ce que véritablement l'utopie est le signe de notre marche vers le futur ? Et ce futur sera-t-il vert ? Alors, je présente mes intervenants. Tout à fait à ma gauche, Yannick Rumpala, qui est politiste, spécialiste de développement durable et des politiques publiques liées au développement durable, chercheur à l'Université de Nice, également auteur d'une magnifique postface dans le dernier recueil de Thomas D, 7 secondes pour devenir un aigle, et puis également très fin connaisseur, comme vous l'avez pu l'entendre hier peut-être, de l'œuvre de Ian Banks. À côté, est-il nécessaire de le présenter, Luc Skuyten, architecte belge, très connu pour son travail justement à forte dimension utopique, travaille sur des cités chlorophylles, des cités vertes, Archiborescence, c'est le nom de son site et c'est aussi le nom de son travail. Il va venir avec, il nous a fait le cadeau d'ailleurs de venir avec une présentation de ses œuvres qu'il commentera pour nous aussi durant cette table ronde. Et puis, juste à côté de moi, l'un des invités, ou peut-être, on va dire, l'invité principal, l'invité le plus éminent aussi de cette programmation, Vincent Calbeau. Vincent Calbeau, c'est un architecte belge qui vit à Paris, extrêmement doué, extrêmement visionnaire, et qui a fait l'exposition que vous avez ici en entrant aux Utopiales, l'exposition qu'on a appelée Les Cités Fertiles, avec son accord. Et il est, Vincent, d'une certaine manière, l'incarnation de l'équilibre, peut-être l'équilibre parfait, mais la perfection est assez immobiliste. Alors je préfère un équilibre en construction entre le réalisme et l'utopie. Vincent nous propose des utopies réalisables à plus ou moins court terme et plutôt dominées d'ailleurs elles aussi par la couleur verte. Je propose aussi dans cette table ronde de ne pas faire d'irénisme, de ne pas faire de candeur, et de ne pas voir uniquement, pendant l'heure qui nous est impartie, uniquement les aspects positifs des utopies vertes. Ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on voit aussi peut-être la face cachée, l'ombre derrière le vert, le côté argenté de la feuille. On dit que la feuille de l'olivier est verte d'un côté, argentée de l'autre. Et le côté peut-être aussi trompeur d'une certaine idéologie verte qui serait systématisée, sachant que toutes les utopies dans leur histoire sont des utopies toujours fondées sur une idée, voire une idéologie. Alors merci à vous trois d'être présents. La première chose pour commencer, tout simplement, je vais peut-être commencer par Luc, par Luc Skuyten, et on va pouvoir montrer ce qu'il nous a amené. Le vert, c'est une couleur dominante dans ton œuvre. L'utopie verte, tu en es peut-être même l'un des précurseurs. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais toi, ça fait longtemps déjà que tu as mis le vert au centre de l'utopie. Alors, est-ce que aujourd'hui, après toutes ces années déjà d'expérience, d'expérimentation, est-ce que le vert reste désormais et définitivement la couleur du bonheur et la couleur de l'utopie ?
Peut-être pour commencer, on peut lancer les images de la régie. Voilà. Oui, peut-être la première réflexion, c'est de se dire qu'il y a une sorte d'évidence quand on parle de végétal, de vivant, d'utiliser la couleur verte. Et bien souvent, je me suis amusé, et ce n'est pas le cas dans ce qu'on voit ici, mais à montrer des cités végétales vertes avec d'autres couleurs que le vert. Parce que c'est tellement convenu que c'est parfois intéressant de changer d'optique et de, parfois, je les ai travaillés en bleu et jaune, par exemple, qui mélangés font du vert, bien entendu, mais quand on les sépare, c'est encore un autre effet. Mais pour répondre à cette question, peut-être que le principal, c'est de commencer par dire quel est l'objectif de ce travail. On parle énormément du futur, actuellement, de plus en plus, avec des images, avec des idées excessivement anxiogènes, en montrant le pire qui pourrait nous arriver. Moi, ça me fait très, très fort flipper, ça, de se dire que la seule perspective d'avenir que l'on a est aussi négative. Alors, à force de nous dire cela, ça décourage complètement les gens et ça n'est certainement pas motivant pour essayer de voir qu'il y a d'autres possibilités. C'est certainement une des principales raisons du travail que j'ai réalisé, c'est d'essayer de faire l'exercice de se dire, mais si c'est pas le pire qui arrive, si c'est le meilleur, à quoi ça pourrait-il ressembler ? Pas que je pense qu'il va nous arriver le meilleur, mais simplement visualiser ça, dire si on fait les bons choix au bon moment, à quoi peut-on espérer arriver un jour ? Je vais prendre la télécommande pour pouvoir passer les images un instant. Voilà. Donc, cette idée est pour moi importante de partir d'abord de ce que nous avons d'existant, dire que imaginer un futur à partir de rien me semble pas tellement réaliste. Pour moi, le développement durable, être efficace par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous pouvons devenir, c'est essayer de faire ce parcours vers quelque chose de complètement différent qui nous propose un monde existant qui mute progressivement vers l'intégration du vivant en tant que matériau de construction. Ici, vous voyez des images de ce que pourrait être une ville telle que celle que nous connaissons ici, ailleurs en Europe, avec des bâtiments qui n'ont pas été rasés, mais qui se sont vus maintenant complétés par des nouvelles structures, par une sorte de peau. Et j'aime beaucoup ce mot peau parce que ça évoque le vivant, puis ça respire, ça transpire, ça crée. On reste en relation avec son environnement. Et j'ai imaginé que les toitures pourraient devenir des sortes de promenades vertes qui permettraient de se déplacer dans la ville en ayant accès à l'horizon, à des jardins collectifs qui permettent une autre manière de se déplacer, mais surtout trouver une qualité de vie dans la ville qu'on a du mal à trouver et à imaginer aujourd'hui. Alors, ces villes que je dessine, j'essaye d'y mettre les éléments qui nous manquent le plus. Ce lien avec notre nourriture. Vous savez, les villes ont de tout temps été excessivement résistantes à beaucoup de choses parce qu'elles étaient en grande autonomie. Actuellement, nous avons une autonomie alimentaire dans nos villes d'une semaine maximum, ce qui veut dire que quand on se trouve face à un gros problème, les circulations ne se passent plus, les voitures, les camions ne roulent plus, on n'a plus à manger. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus à manger dans la ville ? Ça devient vraiment grave. Donc j'ai imaginé qu'on pourrait facilement transformer nos villes actuelles sans énormes changements en des apports alimentaires. Faire des toitures potagères avec des vergers, des poulaillers, avoir des serres, toutes sortes de choses qui permettraient d'avoir un complément alimentaire. Ça ne veut pas dire simplement qu'on peut vivre en complète autonomie, mais en tout cas en grande partie. Et ça, c'est la ville résiliente. Mais ici, un dessin de Nantes qui a été fait pour une exposition précédente, mais qui montre ce que pourrait être cette ville d'ici 100 ans. C'est un dessin que vous devez connaître, mais que je montre en rappel de ce qui a été fait précédemment. Le même exercice sur Lyon, où toutes ces toitures sont connectées et deviennent des sortes de réseaux qui permettent de communiquer à un autre rythme, mais dans une atmosphère où toujours on a gardé une grande partie de ce qui est existant et on l'a fait muter vers autre chose. Ces grandes barres d'habitation excessivement systématiques, très, très géométriques, sont devenues des choses beaucoup plus vivantes, où chacun a pu ajouter différents éléments qui permettent d'intégrer quelque chose qui est plus relié à la vie. J'ai appelé ça des sortes de greffons, de modifications des espaces existants vers des choses beaucoup plus axées sur l'intégration d'éléments qu'on va prendre dans le vivant. Parce que finalement, si on regarde les ressources que la planète a, d'ici une centaine d'années, la plupart des matériaux de construction que nous utilisons aujourd'hui auront disparu. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus, quand on n'a plus d'aluminium, quand on n'a plus de zinc, quand on n'a plus de fer, ou de moins en moins, pour pouvoir continuer à construire avec avec une civilisation industrielle? Je pense qu'il est temps maintenant d'imaginer ce qu'on peut faire avec le seul matériau qui est complètement inépuisable sur la planète. C'est tout ce qui provient du vivant. Un arbre, c'est une merveille dans la manière dont il se développe, et il a besoin pour ça uniquement d'énergie solaire, de nutriments dans le sol et d'eau de pluie. Et à partir de là, on a des structures magnifiques. Donc on peut très bien imaginer des villes entières qui partent d'éléments qui ont poussé et qui donnent des formes d'habitation qui sont refermées après cette structure portante par des membranes transparentes, translucides, qui captent l'énergie solaire, qui la stockent, qui s'isolent en même temps du froid. Toutes sortes de choses qui peuvent être imaginées à partir simplement d'organismes vivants.
Merci Luc, merci pour cette belle présentation. C'est un joli cadeau qu'il vous fait en plus de venir avec la présentation de ses œuvres principales. Merci aussi pour la clarté de l'explication. Donc l'utopie verte, c'est une utopie du futur proche, une utopie en construction et qui va, si j'ai bien suivi, dans la réintroduction de la matière vivante dans la construction. Ce qui me fait un lien tout à fait clair avec l'œuvre de Vincent. Donc Vincent, ce que tu nous présentes ici, les cités fertiles, est-ce que ce sont des cités végétales proches de celles de Luc? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale dans ton travail? Ou est-ce que vous avez la même conviction que l'utopie se construit, je dirais, pratiquement étape par étape, du toit, des fondations jusqu'au toit?
Donc, je suis belge et architecte, tout comme Luc Skuyten, qui est une figure très importante en Belgique de l'architecture végétale et de l'architecture écologique, qui fait suite historiquement aussi à l'architecture Art Nouveau de Bruxelles, qui était la première architecture de Victor Horta, de Paul Ancard, à s'inspirer des formes de la nature. Et depuis maintenant un siècle, on essaye de ne plus simplement s'inspirer des formes de la nature, mais véritablement de s'inspirer des process pour construire des cités végétales, des cités fertiles, des cités arborescentes, qui s'inspirent des structures de la nature, mais également de ses process pour transformer la ville en un écosystème qui puisse générer sa propre énergie et recycler ses propres déchets. La ville devient donc métabolique, la ville devient donc fertile, la ville devient donc nourricière. Je partage également avec Luc Skuyten le positivisme de dire depuis 10 ans, on est assailli par des documentaires complètement anxiogènes sur le résultat de l'activité anthropique sur la planète qui a complètement déréglé le climat. Et je pense qu'à partir de ce carrefour de crise écologique et de crise économique dans lequel nous sommes plongés dans une certaine noirceur, ma génération, on est vraiment, en fait, on a de l'or entre les mains pour inventer un futur beaucoup plus intelligent, hyper dynamique, hyper positif, par l'association de l'ingénierie, c'est-à-dire des sciences développées par les hommes, et par le laboratoire de recherche et de développement offert par la nature depuis 3,8 milliards d'années, qui a fait le tri en ne gardant qu'1% des espèces vivantes les plus intelligentes, que l'on analyse dans leur forme, dans leur structure, dans leur process, pour les réintégrer dans notre architecture. Je pense donc que nous vivons actuellement la troisième grande révolution industrielle de la planète, où chaque révolution industrielle est toujours la conjonction d'une nouvelle technologie de communication alliée à une nouvelle source d'énergie. On a eu par exemple l'ère du charbon qui a permis d'inventer la locomotive, d'inventer le nomadisme, le fait de découvrir de nouveaux territoires. On a eu ensuite l'ère du pétrole qui nous a permis d'inventer l'automobile, automobile qui a ramifié nos villes par un réseau d'autoroutes, par tout un réseau de transport qui a commencé depuis les années 60 à opposer la ville et la campagne. Et dans la prolongation de Lux-Keuten, je pense que nous sommes dans la troisième ère de l'urbanisation où nous rapatrions la nature dans la ville, où nous rapatrions la campagne dans la ville. Donc il ne s'agit pas d'avoir simplement des bâtiments peints en vert avec quelques murs végétaux, il s'agit véritablement d'avoir une nature active, une nature métabolique qui crée l'énergie, qui la recycle. Et donc c'est les utopies vertes sur lesquelles j'essaye de travailler, en essayant de placer le curseur à court et moyen terme. C'est-à-dire que moi j'ai mon atelier d'architecture où je suis confronté, très, très violemment confronté, à une réalité économique et politique où les décideurs, les gens qui doivent persuader leurs citoyens, qui doivent persuader leurs banquiers pour construire des bâtiments intelligents, veulent bien construire des utopies à partir du moment où elles sont réalisables à court terme. Et donc c'est un peu l'exercice de funambule que j'essaye de faire avec mon équipe dans mon agence d'architecture pour essayer de pousser au maximum les limites de l'architecture, donc c'est-à-dire une architecture intelligente, ce qu'on appelle les smart buildings, les bâtiments qui génèrent eux-mêmes leur propre énergie, que cette énergie soit électrique, calorifique ou alimentaire, et qui recyclent leurs propres déchets pour créer la génération post-carbone, la génération post-fossile, la génération post-nucléaire et inventer la génération renouvelable à l'infini. Car effectivement, notre génération, le problème de notre génération, c'est que pour la première fois, on se dit que la planète qu'on va laisser à nos enfants sera dans un moins bon état que la planète qu'on connaît actuellement. Et donc, c'est tout le travail de Lux-Keuten et de moi-même, je pense, de proposer une alternative positive, dynamique, qui puisse créer des débats et un certain dynamisme entre économie, politique et architecture, aménagement du territoire.
Ok, merci beaucoup. Alors, le regard des architectes, évidemment, et ça apparaît encore plus clairement chez Vincent, est un regard qui, évidemment, structure la cité hein, autour des enjeux verts, mais qui est un regard qui vient, je dirais, en amont des considérations strictement politiques, ou on pourrait dire même politiciennes. Vincent disait dans son propos tout à l'heure qu'effectivement, l'une des choses qu'il avait à faire en aval de ses créations, c'était d'essayer de convaincre les politiques qui eux-mêmes doivent convaincre les citoyens. Et ces politiques sont souvent attachées à des projets à court terme. Pourquoi ? Évidemment, pour des raisons tout simplement électorales, et c'est très logique, de ne pas proposer d'utopie qui serait considérée dans le temps même de leur pouvoir politique comme irréalisable. Alors je me tourne maintenant vers Yannick Rumpala, et finalement, au-delà de cette vision architecturale qui semble évidemment tout à fait positive et tout à fait enthousiasmante, on parle même de troisième révolution industrielle, moi, j'aimerais avoir le regard du politiste, non pas un regard plus critique ou un regard plus clairvoyant, mais un regard peut-être plus sur les processus, sur le fonctionnement. En gros, comment les politiques publiques, concrètement, s'adaptent-elles aux enjeux écologiques et à cet appel des architectes vers des cités vertes ?
Alors, je vais peut-être plutôt décaler ta question et en revenant d'abord sur l'expression « utopie verte ». Dont on peut considérer qu'elle est tautologique. Enfin, une utopie, on peut penser qu'elle doit être forcément verte. Si elle intègre les contraintes environnementales, écologiques, une utopie est forcément verte. Donc de même qu'on parle d'alimentation biologique, c'est une expression qui est tautologique. L'alimentation devrait être forcément biologique. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que la question, c'est la manière dont on intègre les contraintes écologiques. Et on l'a un petit peu senti dans le débat qui vient de se lancer. Un levier, par exemple, important, c'est le levier technique. Qu'est-ce qu'on accorde comme place à la technique dans les changements qui, effectivement, sont censés intervenir ? Est-ce qu'on va vers plutôt une forme qui serait high-tech ou plutôt une forme qui serait low-tech ? Et moi, ce qui me... Donc, la troisième révolution industrielle qui a été évoquée, qui fait référence plus ou moins aux travaux de Jeremy Rifkin, c'est quand même une version qui est plutôt high-tech. Et on peut envisager tout à fait d'autres versions d'intégration des contraintes environnementales. Alors, pourquoi je dis ça aussi ? Parce que, de manière assez amusante, les dessins qui ont été proposés propose plutôt des grandes agglomérations urbaines. On a l'impression que, si on suit les grandes visions qui sont proposées, que les villes sont condamnées presque à croître et à grandir, comme si on était sur une tendance quasiment impossible à changer. Et on pourrait prendre un point de vue tout à fait différent. Si on reprend par exemple l'œuvre, qui est une des utopies vertes qu'on trouve dans la littérature, qui est l'œuvre d'un monsieur qui s'appelle Ernest Kallenbach, qui a écrit un bouquin dans les années 70 qui s'appelait Écotopia, qui est l'un des rares exemples là, d'utopie verte qu'on peut trouver dans la littérature, et qui, lui, sur le bouquin, propose une solution qui est de donner une limite maximale à la taille des villes. Donc Écotopia, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu l'histoire, donc on est en plein les années 70, hein, c'est le mouvement hippie qui est dominant à l'époque, et Ernest Kallenbach propose l'histoire d'une sécession. C'est la sécession d'une partie de la côte ouest américaine, donc Californie et un petit peu au nord, qui décide donc de se retirer des États-Unis et de monter une espèce d'enclave communautaire, donc sur des principes qui se voudraient non seulement écologiques, mais féministes, enfin bon, avec les idées qui étaient véhiculées à l'époque. Et ce que propose effectivement Kallenbach, c'est une vision d'une société qui pose une limite maximale à l'expansion urbaine. Donc on connaît tous maintenant le problème américain, qui est celui d'étalement urbain, et Kallenbach en propose une alternative. Donc il y aurait une limite maximale, et pour le coup, qui permettrait de résoudre un certain nombre de questions. Effectivement, si on réduit la taille des villes, c'est une partie des problèmes de transport qui sont pour partie réduits, puisqu'il y a les distances à parcourir qui se retrouvent là. Donc tout ça pour dire que le levier sur lequel on enclenche cette utopie verte, il est éminemment important. Ce n'est pas la même chose de faire du high-tech, où on va recourir à des technologies lourdes. Effectivement, enfin moi, si j'étais très critique par rapport au projet de Tours, on pourrait penser que c'est une solution, certes, mais qui n'est pas forcément la solution préférable. On pourrait envisager une autre forme de répartition des populations dans l'espace géographique. Voilà, je ne voudrais pas non plus monopoliser trop la parole.
Non, mais tout va bien. Tu peux tout de suite réagir. Merci.
Donc, effectivement, moi, je représente plus ou moins le mouvement éco-high-tech, on va dire. Et en fait, je pense plus ou moins l'inverse de toi. Donc, mais c'est subjectif. C'est simplement, à mon avis, moi je considère que depuis les années 60, on a construit la ville à l'horizontale. On a étalé la ville comme une pâte à crêpes immense en créant l'asphyxie au tout à l'automobile, où pour relier sa petite maison individuelle, quatre façades avec un beau petit jardin, le même que tout le monde, et pour aller travailler en ville, on a explosé les moyens de transport, qu'ils soient publics ou individuels. Et donc, par exemple, en Chine actuellement, il y a 240 villes de plus d'un million d'habitants, alors que l'Europe n'en compte que 40. Sur ces 240 villes, il y a 50 villes de plus de 5 millions d'habitants. Shanghai fait 25 millions d'habitants, tend à 30 millions d'habitants d'ici 2015, ce qui représente la moitié de la population française. Donc il faut quand même se poser la question, est-ce qu'une ville dense, verte et hyper connectée, donc c'est-à-dire une ville verticale qui prône le ramassement, le compactage des fonctions, n'est pas moins énergivore qu'une ville à l'horizontale qui fait exploser les moyens de transport, qui fait exploser la consommation énergétique. Tout le monde sait qu'une maison individuelle consomme plus ou moins 1,5 fois plus d'énergie calorifique qu'un appartement dans un immeuble, dans une tour de logement. La construction à la verticale, en France, a toujours fait peur parce qu'elle a une connotation HLM. On a dit, les grands ensembles, ça a été construit pendant les années 60, ça a été mis en banlieue. L'art de l'urbanisation française, ça a été de muséifier les centres-villes, de ghettoiser les banlieues, de faire des quartiers d'affaires comme sur des grosses îles de béton comme l'Arche de la Défense à Paris. Et maintenant, on revient plus à une architecture, un urbanisme un peu jungle, un peu comme ce qui est représenté sur les dessins de Lux Keuton, si je peux me permettre, c'est-à-dire une architecture de fusion qui fusionne le minéral et le végétal, qui fusionne toutes les fonctions entre elles et qui permet aussi de dédensifier le recours systématique aux moyens de transport. Donc moi, c'est un peu plus la philosophie que je prône, c'est le compactage, la verticalité de la ville, et c'est pour ça que j'essaye de travailler sur des modèles comme par exemple la tour Dragonfly à New York, qui propose de ne pas construire le jardin autour de la tour, mais que la tour soit elle-même un jardin habité, multifonction, dans laquelle par exemple on pourrait habiter au 5e étage, avoir son bureau au 16e étage, avoir la crèche au 40e étage, avoir une piscine dans le socle de la tour, et que finalement cette tour est un quartier rabattu à la verticale qui vient densifier la ville en ramenant la nature et aussi le modèle agricole par exemple.
Merci. Alors, c'est vrai que la verticalité, si Luc, tu veux intervenir, évidemment, tout de suite, hein, se rebondir sur ce qu'a dit Vincent. Mais sinon, c'est vrai que la verticalité fait peur. Et c'est vrai que cette verticalité, c'est comme tu dis, hein, cette verticalité high-tech, finalement, ça renvoie à des représentations aussi qui sont très présentes dans la science-fiction. Hein, je pense notamment aux monades urbaines de Robert Silverberg, mais à beaucoup d'autres textes aussi. Et j'ai bien aimé aussi la distinction que vous faites tous les deux entre finalement une écocité high-tech ou une écocité low-tech, sans forcément identifier une écocité croissante et une écocité décroissante. Hein. On n'est pas dans cette dichotomie un petit peu simpliste. Mais moi, je me pose quand même la question, enfin, à tous les trois, avant de revenir après peut-être dans un deuxième temps sur les racines de l'utopie, économiquement, on a là une petite présentation avec la consommation, l'économie, la communication. Économiquement, dans ces projets-là, est-il possible d'avoir de tels projets de cité verte, donc d'utopie verte à brève échéance, dans les économies, entre guillemets, sinistrées que nous avons aujourd'hui, dans les économies en paralysie, du moins largement dans notre zone, en tout cas géographique. Du coup, n'y a-t-il pas une inversion dans le monde, dans la géographie de l'utopie verte? C'est-à-dire, est-ce que finalement, sommes-nous capables aujourd'hui de créer des utopies vertes high-tech ici en Europe?
Oui, moi je pense que c'est même la seule solution. Si l'utopie n'est pas verte, je ne vois pas quelle autre forme elle pourrait prendre. Mais j'aimerais peut-être essayer de clarifier un tout petit peu le débat pour commencer par parler de quelque chose qui peut être sujet à pas mal d'erreurs de conception. Utopie est un mot qui recouvre dans le langage parler habituel un concept très très large qui va des utopies romancières, des utopies fantastiques à une autre conception, celle que nous partageons Vincent et moi, c'est celle d'un autre possible. Donc c'est simplement se dire que nous écartons toute voie que nous pensons ne pas être possible, comme par exemple aller habiter une autre planète ou je ne sais pas, des choses qui sont complètement en dehors de l'entendement aujourd'hui, mais même dans un avenir plus ou moins lointain. Si on veut se ramener à une certaine réalité, nous avons une planète, c'est elle que nous devons trouver les vraies solutions. Donc, dans cette idée-là, simplement explorer les possibles qui n'ont pas encore été explorés, parce qu'on a pris une autre voie. La voie de l'industrie est une voie qui est très différente de celle des utopies que nous présentons, à travers différentes formes d'expression de l'utilisation de ces utopies vertes, elles ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. La vision de Vincent et la mienne ne s'opposent aucunement. Les tours sont une des manières de développer une ville et il n'y a pas que celle-là. Et montrer l'ensemble des éventualités font partie de notre travail. C'est essayer de voir que l'on peut poursuivre des voies différentes qui peuvent avoir leur cohésion, leur cohérence en fonction des paramètres qu'on va prendre en considération et de la manière dont on va se projeter dans ce futur. Mais pour moi, l'essentiel est de bien imaginer que dans un lieu comme celui-ci, celui des Utopiales, beaucoup de choses ont été présentées et qui ont beaucoup d'intérêt, mais qui sont dans le domaine plus du fantastique, dans un imaginaire débridé. Et puis, il y a d'autres choses qui se veulent être très accrochées à une réalité.
Vas-y, si tu veux.
Je vais reprendre le sujet, mais de manière vraiment polémique. Enfin, pour montrer qu'effectivement, il y a une très grosse ambiguïté derrière ce qu'on met l'expression d'utopie verte et le type de projet de société que ça peut porter. Je vais prendre le cas qu'on connaît bien, qui est celui de Nice, où effectivement Nice est engagé dans un grand projet d'aménagement de la plaine du Var, avec un projet qui est effectivement labellisé tout ce qu'il faut, hein, développement durable, HQE, tous les beaux labels éco-responsables que vous voulez. Sauf que quand on regarde effectivement le type de projet qui est porté, effectivement c'est un gros projet d'aménagement, mais qui est en train d'éliminer ce qui restait d'agriculture urbaine. Donc là, pour le coup, je ne sais pas si vous sentez, on a un véritable projet de société. Enfin, certes, l'aménagement qui est fait, il est tout beau, il est développement durable, il est HQE, sauf que la partie naturelle qui subsistait en ville, elle est éliminée. Donc on se retrouve dans une logique de concentration, enfin où on continue cette logique de concentration, d'exode rural et de concentration d'activité en aire urbaine, mais en éliminant toute la partie naturelle. Et on est en train de... Enfin, donc je le prends de manière très polémique, c'est pour aussi susciter le débat. Donc on est en train de créer une espèce de nouvelle couche d'artificialisation en ville, mais avec effectivement une enveloppe verte. Mais on n'est plus enfin, dans... dans ce, enfin, y a, pour le coup, il y a différentes manières de prendre ce qu'on pourrait entendre par utopie verte. Donc, et je reprends ma distinction entre high-tech et low-tech.
Oui, en fait, est-ce que l'utopie verte, finalement, ce que tu dis, hein, finalement, ne serait pas plutôt une enveloppe verte, hein, mais qui ne soit pas en réalité une utopie centrée sur la nature, mais plutôt sur une artificialisation de l'apparence naturelle.
Moi, je vais essayer de redire les choses un peu plus clairement. Il y a deux manières, effectivement, de faire de l'agriculture en ville. Il y a la manière que nous propose Vincent Caillebeau, qui est de la concentrer dans des tours verticales. Et puis, il y a une autre manière qui serait de faire de l'agriculture en ville, qui serait de préserver les marges agricoles urbaines qui existent encore. Donc là, pour le coup, ce qu'est en train de faire la ville de Nice, c'est supprimer les dernières portions agricoles qui existent en ville. Et bon, on parlait de la notion de résilience. Une très bonne manière de maintenir cette résilience, ça serait de préserver cette frange urbaine, ces ceintures vertes qui existent encore en ville, plutôt que de vouloir absolument concentrer dans des tours, en plus avec d'autres problèmes écologiques que ça pose. Enfin, concentrer de l'élevage, concentrer de la culture, c'est aussi potentiellement controversé. Il y a des grosses controverses actuellement sur la manière de réaliser ce type de projet. Voilà. Je pose l'argument de manière volontairement...
Donc, on voit bien justement les deux.
Pour lancer le débat, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut garder des franges complètement végétalisées, naturelles, sauvages, en bordure de ville. Et justement, comment est-ce qu'on fait pour sauvegarder ces franges? Soit on construit la ville en l'étalant, donc en ayant une densité uniforme entre le cœur de la ville, la périphérie la proche et la périphérie lointaine, ou soit on marque des contrastes entre des centres-villes hyper urbanisés, hyper denses, avec après des zones complètement libres, des grands poumons végétaux. Donc je pense que c'est pas du low-tech ou c'est pas du high-tech. L'idéal, c'est toujours l'équilibre. C'est le medium-tech, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Et moi, je voulais aussi insister sur le fait que, en tant qu'architecte, il faut pas simplement voir l'architecte comme un constructeur de bâtiments qui crée de l'espace. Il faut voir un architecte qui travaille de façon plus pluridisciplinaire avec des sociologues, avec des politologues, avec des écologistes, avec des biologistes, des chimistes, des physiciens, des astrophysiciens, pour inventer les modes de vie du futur. C'est-à-dire que actuellement, en fait, personne ne remet en question notre mode de vie. Le fait d'avoir chacun un habitat individuel, d'avoir chacun un travail, de dissocier les deux. Donc nous, on essaie de remettre ça en question, de dire, est-ce qu'on peut ramener justement l'agriculture dans la ville, venir faire des fermes verticales. On travaille actuellement avec le MIT à New York, la section biologie, pour savoir si dans les pays émergents, pour réduire la boucle des flux import-export de marchandises et les gaz à effet de serre qui en découlent, il ne serait pas plus intéressant de venir étager les champs d'agriculture par des potagers, des vergers suspendus au cœur de la cité, avec un système d'irrigation qui fonctionne en flux fermé, avec une production d'énergie décentralisée, c'est-à-dire que le bâtiment est lui-même une propre centrale énergétique qui fonctionne de façon autonome, autosuffisante. Et donc c'est par exemple un des paradigmes sur lequel on travaille. La réintroduction de l'agriculture dans la ville, qui n'est pas l'introduction d'une nature décorative, d'une nature cosmétique, mais véritablement d'une nature qui produit des richesses alimentaires, biologiques, qui fait en sorte que la ville produit elle-même sa propre énergie là où on la consomme. Ça s'inscrit dans la logique des locavores. Ensuite, on développe aussi d'autres thématiques comme les projets des villes flottantes, où actuellement 75% des villes de la planète sont situées sur des zones littorales. Et donc, il y a toujours eu la poésie, un rapport fusionnel entre l'homme et la nature, mais surtout entre l'homme et l'océan. L'homme a toujours voulu conquérir l'océan, on en parlait hier avec Jules Verne. Et actuellement, il y a deux méthodes. C'est la construction sur pieux ou la construction sur polders, c'est-à-dire les grands amoncellements de sable qui sont érodés après une décennie en général. C'est ce qui se fait maintenant partout aux Émirats arabes unis, dans le sud-est asiatique et en Hollande, par exemple, aussi. On essaye d'imaginer, est-ce que, dans le cadre, tout d'abord, d'une utopie, donc d'une cité idéale, il ne serait pas possible de construire une cité polyfonctionnelle, polyculturelle, autosuffisante en énergie, qui recycle ses déchets et qui représente la juste symbiose entre évolution économique et respect de l'environnement. C'est une réponse qu'on a essayé d'apporter avec le projet Lilipad, qui a été un projet qui finalement a posé plus de questions que de réponses effectives. mais qui essaye de créer le débat pour savoir si on peut vivre autrement par rapport à nos styles de vie contemporains. Après, par rapport à ce greenwashing, donc, c'est-à-dire déguiser les bâtiments faussement écologiques, qui, je sais que les systèmes politiques et économiques nous poussent en tant qu'architecte à dire bah, « peins ton bâtiment en vert, il serait écologique ». On essaye de lutter contre ça, mais on doit le faire intelligemment parce qu'il faut justement prouver aux investisseurs et aux politiques que le fait de réinventer le mode de vie pourra créer l'emploi, pourra créer de l'argent et sera vecteur d'un moteur économique. Et donc, en quoi ces utopies vertes peuvent relancer l'économie? Si je reprends l'exemple de la ferme urbaine, c'est le fait de revenir réintégrer non seulement l'agriculture, mais les modes de façon de travailler, primaire et secondaire, au cœur de la ville, en créant une main-d'œuvre manuelle. Et donc en venant aussi régénérer les liens sociaux qui parfois ont pu se casser, être interrompus au cœur de la ville.
Ok, alors justement, ça m'offre bien la transition vers la dernière partie de la table ronde, mais je voudrais aussi avoir le temps de donner la parole au public, parce que vous voyez, finalement, au-delà du débat, il y a une rencontre, effectivement, entre les différents types de conception de l'utopie. C'est vrai qu'on n'a pas défini, et Luc tout à l'heure le disait, on n'a pas défini le mot utopie, on est parti un petit peu comme ça tout de suite sur les projets des intervenants, mais à la base, quand même, l'utopie de Thomas More en 1516, c'est la cité qui n'existe pas, hein, ou topos. Et tout à l'heure, quand vous avez dit tous les deux, Yannick et Luc, que finalement, utopie verte, c'était presque un pléonasme, moi je pense que c'est pas plutôt un oxymore, c'est-à-dire finalement, le vert, c'est ce qui existe, c'est la nature, et l'utopie, c'est ce qui n'existe pas, ce qui est impossible ou inaccessible. Alors, c'est vrai que la dimension utopique de Thomas More, c'était une cité, une non-cité, une cité de l'inexistant, qui en fait servait à faire la critique de l'Angleterre de son époque. Mais au XIXe siècle, on a eu des utopies, après la Révolution française, des utopies qui étaient plutôt des utopies du futur, à partir en gros de Louis-Sébastien Mercier avec l'an 2440, qu'on pourrait appeler, pour simplifier, des utopies programmatiques ou des utopies de programmation sociale, presque d'ingénierie sociale avec le positivisme. Vous avez employé le mot positivisme, mais pas dans le sens du XIXe, dans le sens d'un optimisme. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ce modèle-là d'utopie qui émerge dans les discours qui vous ont été présentés, ce qui me fait poser évidemment la question du citoyen. Le citoyen qui est au cœur de l'utopie, c'est le citoyen qui est au cœur du bâtiment, c'est le citoyen qui est au cœur de la nature, qui va être en contact avec cette nature, qu'elle soit artificialisée ou au contraire qu'elle soit nourricière en réalité, hein, c'est ce que tu dis, le bâtiment nourricier. Et je voudrais vous poser la question à tous les trois. Est-ce que la notion même de citoyen devrait, en conséquence de ces utopies vertes, si elles se réalisent, être modifiée, être repensée? Est-ce que le citoyen ne doit pas lui aussi devenir vert?
Donc moi, je pense que le citoyen doit devenir éco-responsable. C'est un mot bateau, mais c'est simplement pour dire que maintenant, par exemple, via le réseau Internet, on peut créer une politique parallèle. Et donc, on peut militer, on peut prendre parti, on peut faire des projets participatifs. Je me souviens d'une présentation au TEDx Nantes au mois de janvier, où il y avait un collectif d'un immeuble HLM ici à Nantes qui avait pris le parti de former une ASBL pour former des jardins potagers et pour donc créer un lieu de rencontre entre différentes cultures, entre différentes générations qui pouvaient se rencontrer activement autour d'un projet de nature nourricière, justement. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est dire que maintenant, via les nouvelles techniques de communication et d'information, vous pouvez, quelque part, prendre le pouvoir et vous pouvez imaginer vous-même, en partie, votre destin.
Ok, merci. Luc, par rapport aux citoyens?
Oui, moi, je pense que ce qui est important, c'est de remettre les choses à leur place. Un être humain est un être biologique qui vit sur une planète qui est vivante et autour d'un ensemble d'autres êtres vivants, et que retrouver cette place de respect par rapport à tout ce qui est le vivant permet d'avoir une sorte de valeur importante qui va nous permettre de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qui est là où on peut trouver un équilibre ou là où on est en total déséquilibre. L'utopie verte, pour moi, c'est chercher cet équilibre qui n'est pas une pensée théorique d'un homme comme c'était à l'origine quand on a inventé le mot utopie. C'était le projet de Thomas More ou de Le Corbusier ou je ne sais pas, un homme qui repense le monde. Actuellement, on n'en est plus là. On se dit qu'il y a une seule chose dans laquelle il faut avoir une confiance absolue, c'est la nature, puisque nous sommes un des produits de la nature. Sans la nature, nous ne pouvons pas vivre ici. Et c'est retrouver ces collections, ces valeurs, retrouver un bon fonctionnement avec l'ensemble des autres organismes vivants qui nous entourent. Et dans cette espèce de connexion tout à fait générale, retrouver comment on peut continuer à évoluer en bonne intelligence et en complémentarité. Ne pas détruire, mais construire quelque chose. Et juste un petit mot sur une utopie verte extraordinaire qui existe maintenant. Il y en a un peu partout. Il y a aux États-Unis Growing Power, il y a à Porto Novo, au Bénin, le centre Sangai, qui est pour moi une merveille et sujet de grande admiration, ce que cet homme, Godfrey Muzango, a réalisé en mettant en connexion tout ce qu'il a pu dans son environnement. Il a créé une sorte de ferme qui vit en autarcie complète. Tous les déchets deviennent nourriture pour un des systèmes. Il fonctionne en boucle avec un résultat absolument remarquable parce qu'ils arrivent à faire produire tous leurs besoins essentiels, y compris leur carburant. Ils font leurs outils eux-mêmes avec tout ce qu'ils font sur leur propre terrain de quelques hectares. En simplement mettant en connexion l'ensemble des éléments. Et des exemples comme ça, il y en a de plus en plus de gens qui réfléchissent dans des systèmes en boucle.
Merci. Yannick, le citoyen vert, un super citoyen, alors
Bah, j'irais là aussi faire attention aux ambiguïtés. Enfin, effectivement, il y a un aspect citoyen. L'utopie verte, enfin, en tout cas l'écologie, ça sera forcément l'intégration d'une série de contraintes. Et la question, c'est quelles sont ces contraintes, qui les définit, dans quel cadre, et pour le coup, là, c'est véritablement politique. Donc je dirais, là aussi, faire attention aux ambiguïtés, parce qu'effectivement, c'est... Bon, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein, c'est sur le modelage des individus, ou ce que j'ai appelé, moi, la gouvernementalisation des conduites, puisqu'on est dans une phase où, effectivement, l'enjeu, c'est ça, hein, c'est prendre en compte les conséquences de nos comportements et les prendre en compte de manière systématique. Et on a tous commencé à faire ce type d'évolution et ce type de modelage des esprits. Donc c'est typiquement le comportement dans lequel on est au supermarché, c'est on commence à regarder les emballages pour vérifier les aspects écologiques qui sont effectivement listés et qui sont même sous des formes parfois très calculées avec des beaux chiffres et des beaux indicateurs. Sauf que là aussi on peut prendre la question de manière très différente. On peut se poser et se demander si effectivement être un éco-citoyen c'est juste trier ses produits et trier ses emballages et le faire sans que le cadre d'ensemble ait changé. Enfin, donc effectivement on a ce bon comportement, mais si la tendance reste à l'augmentation du niveau de production, on peut faire l'hypothèse que le gain écologique sera relativement limité. Donc c'est quel type de contraintes, qui produit ces contraintes et dans quel cadre. Si le cadre n'évolue pas et que la pression se reporte essentiellement sur le consommateur, effectivement, on peut penser que c'est problématique. Donc moi, effectivement, j'ai travaillé là-dessus sur la question des déchets. Il y a un type de solution qui est d'inciter chaque individu à trier chez lui ses emballages. C'est un type de solution. Mais on aurait pu tout à fait imaginer que d'autres solutions restent pérennes, comme par exemple la consigne, ou reporter la contrainte sur les industriels. Pourquoi après tout, ça serait un individu consommateur qui serait obligé de faire chez lui ce travail d'intégration des contraintes environnementales? Et pourquoi ne pas penser que d'autres solutions seraient possibles également en amont? Donc voilà, d'où cet aspect qui est très important. C'est quelle conduite évoluer et qui produit le modèle vers lequel on est censé se diriger. Et là, pour le coup, c'est politique. Alors, moi, ça me pose d'autant plus de problèmes que pour rebondir sur les questions architecturales, il y a un certain nombre de gens dans le milieu architectural qui réfléchissent à des bâtiments qui fonctionnent de telle sorte que le comportement des individus soit orienté sans que les individus en aient conscience. C'est-à-dire que le bâtiment est conçu ou le bâtiment fonctionne de telle manière que... vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas de question à se poser. C'est vous ferez forcément le comportement qui est attendu de vous, donc avec le respect de l'environnement qui est attendu de vous et un certain nombre de critères qui sont définis en amont dans des lieux qu'on ne connaît pas forcément, mais qui pour le coup peuvent être relativement contraignants. Donc,
Oui, au-delà de ça, de toute façon, nous sommes un peu tous des citoyens déjà contraints et déjà souvent orientés, et pas simplement sur les enjeux verts. Mais c'est vrai qu'il y aurait, aussi un aspect que je n'ai pas eu le temps moi, de développer, que j'aurais bien aimé développer, qui est l'aspect juridique. L'écheveau des sanctions juridiques va changer aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sanctions se portent beaucoup sur les délits routiers, autoroutiers, par exemple, qui ne dit que demain, le citoyen vert ne sera pas face à des contraventions pour ne pas avoir trié, ou pire, à des délits. Il y a un très beau texte de Claude Ekenn qui s'appelle « La saison de la colère », paru aux éditions du Somnium, qui traite de cette question. Il nous reste 5 minutes pour les questions du public. Encore une fois, trop court, je m'en excuse, mais les intervenants sont tellement intéressants. Qui a une question pour Luc pour... Oui, merci. Allez-y, levez-vous, monsieur, voilà. Merci.
Merci.
On vous écoute.
On m'entend. Oui, j'avais une question sur le débat tout à l'heure sur verticalité, low-tech, high-tech, qui me paraît très intéressant, mais... Je me demandais, est-ce qu'on ne peut pas concilier les deux ? Parce que finalement, ce qui justifie la verticalité et la concentration urbaine, c'est l'accès aux loisirs, au travail. Et aujourd'hui, il y a pas mal de réflexions autour de la révolution des télécommunications, etc., sur la déconcentration, justement. Est-ce que, par exemple, pour travailler, on est obligé d'habiter à côté de son lieu de travail ? Ou, par exemple, pour avoir accès à un musée ou à un loisir, est-ce qu'on a besoin d'être sur place ? Et donc, de penser une réflexion en termes de déconcentration high-tech, c'est-à-dire, par exemple, penser à des communautés, enfin, à des villes qui seraient beaucoup plus étalées ou même beaucoup plus séparées les unes des autres, mais toutes interconnectées virtuellement, puisqu'il y a quand même une évolution technologique qui va dans ce sens-là, dans le sens de la dématérialisation, de l'ultra-connexion, ce qu'on appelle la réalité augmentée, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion autour de ça qui serait une sorte de conciliation entre l'opposition entre M. Rumpala et les Alors, architectes sur cette vision-là.
Ok, donc concilier grâce au réseau finalement, c'est-à-dire à la fois déconcentrer, hein, si je suis bien, et utiliser les réseaux comme instrument de communication pour des communautés finalement qui seraient assez éloignées les unes des autres, étalées sur l'espace. Mmh. Alors entre vous deux, qui va...
Je veux bien commencer. Effectivement, la question, on a eu tendance à poser un petit peu trop la focale sur l'aspect urbain, et je pense qu'il faudrait effectivement étendre la focale. La question, ce n'est pas seulement une question urbanistique, c'est une question d'aménagement du territoire dans son ensemble. Et effectivement, l'hypothèse qui est un peu implicite, et l'exemple de la Chine est assez parlant, c'est une hypothèse de, on est sur une tendance à la concentration urbaine qui se poursuivrait, et l'exode rural serait censé se poursuivre. Ce n'est pas une hypothèse qu'on est obligé de partager. Enfin, c'est pour ça qu'il y a d'autres modèles de société qui sont tout à fait envisageables. Alors après, on peut effectivement fonctionner sur ce principe de... des nouvelles technologies qui permettent de vivre ou de se connecter sans être forcément à proximité d'aires urbaines. Mais effectivement, ça suppose d'élargir la focale et de ne pas se limiter surtout à la focale uniquement urbaine. Je suis d'accord, tout à fait.
Vas-y.
Donc, moi, je suis tout à fait dans l'optique de créer justement ces villes aussi dématérialisées. Mais j'essaie toujours de viser quand même la densité urbaine qui peut être mise en harmonie avec des grandes zones aérées, avec des habitats beaucoup plus étalés. Et la dématérialisation, effectivement, de toute façon, on la vit depuis 10 ans, la dématérialisation des moyens de transport. Moi, par exemple, j'ai un chantier à Taïwan. Je n'y vais pas chaque semaine pour faire mes réunions de chantier. Je peux tout faire via Skype. Du coup, j'ai mon bilan carbone qui est divisé par 10 par rapport à si j'avais été architecte il y a 30 ans. Il y a la dématérialisation aussi de nos intérieurs, où finalement on a de moins en moins de biens matériels à l'intérieur de nos habitations. On le voit par tous les supports numériques qui permettent aussi d'alléger nos biens matériels. Cela, ça nous fait repenser aussi la flexibilité spatiale des espaces dans lesquels on vit. Et je pense vraiment que la ville de demain visera donc cette résilience écologique et essaiera toujours de faire en sorte de trouver la juste symbiose entre les biotechnologies et les technologies de l'information et de la communication pour justement trouver ce fameux équilibre dont parlait Luc juste avant, c'est-à-dire l'homme qui respecte la planète dans laquelle il vit et qui essaye de s'accorder avec elle pour vivre le plus longtemps possible. En fait, c'est ça l'utopie, c'est simplement vivre en accord sur la planète qui nous accueille.
Bien, je pense que c'est une très belle conclusion. Je vous remercie tous. Je précise qu'ils sont en séance de signature tout à l'heure, donc vous pouvez aussi aller continuer la rencontre avec eux. Et puis, nous avons après la suite du programme. Merci à tous, en tout cas, et merci à vous de votre présence. Merci.